As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Première partie de La Belle et la Bête. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Première partie. Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant entretient l'abondance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heureux dans ses entreprises et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles faveurs. Mais s'il avait des richesses immenses, il avait aussi beaucoup d'enfants. Sa famille était composée de 6 garçons et de 6 filles. Aucun n'était établi. Les garçons étaient assez jeunes pour ne se point presser. Les filles, trop fières des grands biens sur lesquels elles avaient lieu de compter, ne pouvaient aisément se déterminer pour le choix qu'elles avaient à faire. Leur vanité se trouvait flattée des assiduités de la plus brillante jeunesse. Mais un revers de fortune, auquel elles ne s'attendaient pas, vint troubler la douceur de leur vie. Le feu prit dans leur maison. Les meubles magnifiques qui la remplissaient, les livres de compte, les billets, l'or, l'argent, et toutes les marchandises précieuses qui composaient tout le bien du marchand furent enveloppées dans ce funeste embrasement, qui fut si violent qu'on ne sauva que très peu de choses. Ce premier malheur ne fut que l'avant-coureur des autres. Le père, à qui jusqu'alors tout avait prospéré, perdit en même temps, soit par des naufrages, soit par des corsaires, tous les vaisseaux qu'il avait sur la mer. Ses correspondants lui firent banqueroute. Ses commis dans les pays étrangers furent infidèles. Enfin, de la plus haute opulence, il tomba tout à coup dans une affreuse pauvreté. Il ne lui resta qu'une petite habitation champêtre située dans un lieu désert, éloigné de plus de 100 lieues de la ville dans laquelle il faisait son séjour ordinaire. Contraint de trouver un asile loin du tumulte et du bruit, ce fut là qu'il conduisit sa famille, désespérée d'une telle révolution. Surtout les filles de ce malheureux père n'envisageaient qu'avec horreur la vie qu'elles allaient passer dans cette triste solitude. Pendant quelque temps, elles s'étaient flattées que, quand le dessein de leur père éclaterait, les amants qui les avaient recherchés se croiraient trop heureux de ce qu'elles voudraient bien se radoucir. Elles s'imaginaient qu'ils allaient tous à l'envi briguer l'honneur d'obtenir la préférence. Elle pensait même qu'elle n'avait qu'à vouloir pour trouver des époux. Elles ne restèrent pas longtemps dans une erreur si douce. Elles avaient perdu le plus beau de leurs attraits, en voyant comme un éclair disparaître la fortune brillante de leur père. Et la saison du choix était passée pour elles. Cette foule empressée d'adorateurs disparut au moment de leur disgrâce. La force de leur charme n'en put retenir aucun. Les amis ne furent pas plus généreux que les amants. Dès qu'elles furent dans la misère, tous, sans exception, cessèrent de les connaître. on poussa même la cruauté jusqu'à leur imputer le désastre qui venait de leur arriver. Ceux que le père avait le plus obligés furent les plus empressés à le calomnier. Ils débitèrent qu'il s'était attiré ses infortunes par sa mauvaise conduite, ses profusions et les folles dépenses qu'il avait fait et laissé faire à ses enfants. Ainsi, cette famille désolée ne put donc prendre d'autre parti que celui d'abandonner une ville où tous se faisaient un plaisir d'insulter à sa disgrâce. N'ayant aucune ressource, ils se confinèrent dans leur maison de campagne, située au milieu d'une forêt presque impraticable et qui pouvait bien être le plus triste séjour de la terre. Que de chagrins ils eurent à essuyer dans cette affreuse solitude! Il fallut se résoudre à travailler aux ouvrages les plus pénibles. Hors d'état d'avoir quelqu'un pour les servir, les fils de ce malheureux marchand partagèrent entre eux les soins et les travaux domestiques. Tous à l'envi s'occupèrent à ce que la campagne exige de ceux qui veulent en tirer leur subsistance. Les filles, de leur côté, ne manquèrent pas d'emploi. Comme des paysannes, elles se virent obligées de faire servir leurs mains délicates à toutes les fonctions de la vie champêtre. Ne portant que des habits de laine, n'ayant plus de quoi satisfaire leur vanité, ne pouvant vivre que de ce que la campagne peut fournir, bornées au simple nécessaire, mais ayant toujours du goût pour le raffinement et la délicatesse, ces filles regrettaient sans cesse et la ville et ses charmes. Le souvenir même de leurs premières années, passées rapidement au milieu des ris et des jeux, faisait leur plus grand supplice. Cependant, la plus jeune d'entre elles montra dans leur commun malheur plus de constance et de résolution. On la vit par une fermeté bien au-dessus de son âge prendre généreusement son parti. Ce n'est pas qu'elle n'eût donné d'abord des marques d'une véritable tristesse. Eh, qui ne serait pas sensible à de pareils malheurs? Mais après avoir déploré les infortunes de son père, pouvait-elle mieux faire que de reprendre sa première gaieté, d'embrasser par choix l'état seul dans lequel elle se trouvait, et d'oublier un monde dont elle avait avec sa famille éprouvé l'ingratitude et sur l'amitié duquel elle était si bien persuadée qu'il ne fallait pas compter dans l'adversité? Attentive à consoler son père et ses frères par la douceur de son caractère et l'enjouement de son esprit, que n'imaginait-elle point pour les amuser agréablement? Le marchand n'avait rien épargné pour son éducation et celle de ses sœurs. Dans ces temps fâcheux, elle en tira tout l'avantage qu'elle désirait. Jouant très bien de plusieurs instruments qu'elle accompagnait de sa voix, s'était invité ses sœurs à suivre son exemple, mais son enjouement et sa patience ne firent encore que les attrister. Ses filles, que de si grandes disgrâces rendaient inconsolables, trouvaient dans la conduite de leur cadette une petitesse d'esprit, une bassesse d'âme et même de la faiblesse à vivre gaiement dans l'état où le ciel venait de les réduire. « Qu'elle est heureuse ! » disait l'aînée. « Elle est faite pour les occupations grossières. Avec des sentiments si bas, qu'aurait-elle pu faire dans le monde ?» Pareils discours étaient injustes. Cette jeune personne eût été bien plus propre à briller qu'aucune d'elles. Une beauté parfaite ornait sa jeunesse. Une égalité d'humeur la rendait adorable. Son cœur, aussi généreux que pitoyable, se faisait voir en tout. Aussi sensible que ses sœurs aux révolutions qui venaient d'accabler sa famille, par une force d'esprit qui n'est pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tant de constance passa pour insensibilité, mais on appelle aisément d'un jugement porté par la jalousie. Connue des personnes éclairées pour ce qu'elle était, chacun s'était empressé de lui donner la préférence. Au milieu de sa plus haute splendeur, si son mérite la fit distinguer, sa beauté lui fit donner par excellence le nom de la Belle. Connue sous ce nom seul, en fallait-il davantage pour augmenter et la jalousie et la haine de ses sœurs? Ses appas et l'estime générale qu'elle s'était acquise eût dû lui faire espérer un établissement encore plus avantageux qu'à ses sœurs. Mais touchée seulement des malheurs de son père, loin de faire quelque effort pour retarder son départ d'une ville dans laquelle elle avait eu tant d'agréments, elle donna tous ses soins pour en hâter l'exécution. Cette fille fit voir dans la solitude la même tranquillité qu'elle avait eue au milieu du monde. Pour adoucir ses ennuis dans ses heures de relâche, elle ornait sa tête de fleurs, et comme à ses bergères des premiers temps, la vie rustique, en lui faisant oublier ce qui l'avait le plus flatté au milieu de l'opulence, lui procurait tous les jours d'innocents plaisirs. Déjà 2 années s'étaient écoulées, et cette famille commençait à s'accoutumer à mener une vie champêtre, lorsqu'un espoir de retour vint troubler sa tranquillité. Le père reçut avis qu'un de ses vaisseaux qu'il avait cru perdu venait d'arriver à bon port richement chargé. On ajoutait qu'il était à craindre que ses facteurs, n'abusant de son absence, ne vendissent sa cargaison à vil prix, et que par cette fraude, ils ne profitassent de son bien. Il communiqua cette nouvelle à ses enfants, qui ne doutèrent pas un moment qu'elle ne les mit bientôt en état de quitter le lieu de leur exil. Surtout les filles, plus impatientes que leurs frères, croyant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre rien de plus positif, voulaient partir à l'instant et tout abandonner. Mais le père, plus prudent, les pria de modérer leur transport. Quelque nécessaire qu'il fût à sa famille, dans un temps surtout où l'on ne pouvait interrompre les travaux de la campagne sans un notable préjudice, il laissa le soin de la récolte à ses fils et prit le parti d'entreprendre seul un si long voyage. Toutes ses filles, excepté la cadette, ne faisaient plus de doute de se revoir bientôt dans leur première opulence. Elles s'imaginaient que quand le bien de leur père ne deviendrait pas assez considérable pour qu'il les ramenât dans la grande ville, lieu de leur naissance, il en aurait du moins assez pour les faire vivre dans une autre ville moins florissante. Elles espéraient y trouver bonne compagnie, y faire des amants, profiter du premier établissement qu'on leur proposerait. Ne pensant déjà presque plus aux peines que depuis 2 ans elles venaient d'essuyer, se croyant même déjà, comme par miracle, transportées d'une fortune médiocre dans le sein d'une agréable abondance, elles osèrent, car la solitude ne leur avait pas fait perdre le goût du luxe et de la vanité, accabler leur père de folles commissions. Il était chargé de faire pour elles des emplettes en bijoux, en parures, en coiffures. À l'envi l'une de l'autre, c'était à qui demanderait davantage. Mais le produit de la prétendue fortune du père n'aurait pu suffire à les satisfaire. La belle, que l'ambition ne tyrannisait pas et qui n'agissait jamais que par prudence, jugea d'un coup d'œil que, s'il remplissait les mémoires de ses sœurs, le sien serait très inutile. Mais le père, surpris de son silence, lui dit « Et toi, la belle ?» en interrompant ses filles insatiables. « N'as-tu point envie de quelque chose ? Que t'apporterai-je ? Que souhaites-tu ? Parle hardiment. »
« Mon cher papa, » lui répondit cette aimable fille en l'embrassant tendrement, « je désire une chose plus précieuse que tous les ajustements que mes sœurs vous demandent. J'y borne mes vœux. Trop heureux s'ils sont remplis, c'est le bonheur de vous voir de retour en parfaite santé. »
Cette réponse, si bien marquée au coin du désintéressement, couvrit les autres de honte et de confusion. Elles en furent si courroucées qu'une d'entre elles, répondant pour toutes, dit avec aigreur «
Cette petite fait l'importante et s'imagine qu'elle se distinguera par cette affection héroïque. Assurément, rien n'est plus ridicule. »
Mais le père, attendri de ses sentiments, ne put s'empêcher d'en marquer sa joie. Touché même des vœux auxquels cette fille se bornait, il voulut qu'elle demandât quelque chose, et pour adoucir ses autres filles indisposées contre elle, il lui remontra que pareille insensibilité sur la parure ne convenait pas à son âge, qu'il y avait un temps pour tout.
« Eh bien, mon cher père, lui dit-elle, puisque vous me l'ordonnez, je vous supplie de m'apporter une rose. J'aime cette fleur avec passion. Depuis que je suis dans cette solitude, je n'ai pas eu la satisfaction d'en voir une seule. »
C'était obéir et vouloir en même temps qu'il ne fît aucune dépense pour elle. Cependant, le jour vint qu'il fallait que ce bon vieillard s'arrachât des bras de sa nombreuse famille. Le plus promptement qu'il put, il se rendit dans la grande ville où l'apparence d'une nouvelle fortune le rappelait. Il n'y trouva pas les avantages qu'il pouvait espérer. Son vaisseau véritablement était arrivé, mais ses associés, qui le croyaient mort, s'en étaient emparés, et tous les effets avaient été dispersés. Ainsi, loin d'entrer dans la pleine et paisible possession de ce qui lui pouvait appartenir, pour soutenir ses droits, il lui fallut essuyer toutes les chicanes imaginables. Il les surmonta,
mais après plus de 6 mois de peine et de dépenses, il ne fut pas plus riche qu'auparavant. Ses débiteurs étaient devenus insolvables, et à peine fut-il remboursé des frais. C'est tout se termina cette richesse chimérique. Pour comble de désagréments, afin de ne pas hâter sa ruine, il fut obligé de partir dans la saison la plus incommode et le temps le plus effroyable. Exposé sur la route à toutes les injures de l'air, il faillit périr de fatigue. Mais quand il se vit à quelques lieues de sa maison, de laquelle il ne comptait pas sortir pour courir après de folles espérances, que la belle avait eu raison de mépriser, les forces lui revinrent. Il lui fallait plusieurs heures pour traverser la forêt. Il était tard. Cependant, il voulut continuer sa route, mais surpris par la nuit, pénétré du froid le plus piquant et enseveli, pour ainsi dire, sous la neige avec son cheval, ne sachant enfin où porter ses pas, il crut toucher à sa dernière heure. Nulle cabane sur sa route, quoique la forêt en fût remplie. Un arbre creusé par la pourriture fut tout ce qu'il trouva de meilleur, trop heureux encore d'avoir pu s'y cacher. Cet arbre, en le garantissant du froid, lui sauva la vie, et le cheval, peu loin de son maître, aperçut un entre-creux où, conduit par l'instinct, il se mit à l'abri. La nuit en cet état lui parut d'une longueur extrême, de plus persécuté par la faim, effrayé par les hurlements des bêtes sauvages qui passaient sans cesse à ses côtés, pouvait-il être un instant tranquille? Ses peines et ses inquiétudes ne finirent pas avec la nuit. Il n'eut que le plaisir de voir le jour, et son embarras fut grand. En voyant la terre extraordinairement couverte de neige, quel chemin pouvait-il prendre? Aucun sentier ne s'offrait à ses yeux. Ce ne fut qu'après une longue fatigue et des chutes fréquentes qu'il put trouver une espèce de route dans laquelle il marcha plus aisément. En avançant sans le savoir, le hasard conduisit ses pas dans l'avenue d'un très beau château que la neige avait paru respecter. Elle était composée de 4 rangs d'orangers d'une extrême hauteur, chargés de fleurs et de fruits. On y voyait des statues placées sans ordre ni symétrie, les unes étaient dans le chemin, les autres entre les arbres, toutes d'une matière inconnue, de grandeur et de couleur humaine, en différentes attitudes et sous divers ajustements, dont le plus grand nombre représentait des guerriers. Arrivé jusque devant la première cour, il y vit encore une infinité d'autres statues. Le froid qu'il soufflait ne lui permit pas de les considérer. Un escalier d'agate à rampe d'or ciselée d'abord s'offrit à sa vue. Il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées. Une chaleur douce qu'il y respira le remit de ses fatigues. Il avait besoin de quelque nourriture. À qui s'adresser? Ce vaste et magnifique édifice ne paraissait être habité que par des statues. Un silence profond y régnait, et cependant, il n'avait point l'air de quelque vieux palais qu'on eût abandonné. Les salles, les chambres, les galeries, tout était ouvert. Nul être vivant ne paraissait dans un si charmant lieu. Las de parcourir les appartements de cette vaste demeure, il s'arrêta dans un salon où l'on avait fait un grand feu. Présumant qu'il était préparé pour quelqu'un qui ne tarderait pas à paraître, il s'approcha de la cheminée pour se chauffer, mais personne ne vint. Assis en attendant sur un sofa placé près du feu, un doux sommeil lui ferma les paupières et le mit hors d'état d'observer si quelqu'un ne le viendrait point surprendre. La fatigue avait causé son repos, la faim l'interrompit. Depuis plus de 24 heures, il en était tourmenté. L'exercice même qu'il venait de faire depuis qu'il était dans ce palais augmentait encore ses besoins. À son réveil, il fut agréablement surpris de voir, en ouvrant les yeux, une table délicatement servie. Un léger repas ne pouvait le contenter, et les mets somptueusement apprêtés l'invitaient à manger de tout. Fin de la première partie, lue par Ezois, en Belgique, en avril 2009.
Deuxième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Deuxième partie. Son premier soin fut de remercier hautement ceux desquels il tenait tant de bien. et il résolut ensuite d'attendre tranquillement qu'il plût à ses hôtes de se faire connaître. Comme la fatigue l'avait endormi avant le repas, la nourriture produisit le même effet et rendit son repos plus long et plus paisible, en sorte qu'il dormit cette seconde fois au moins 4 heures. À son réveil, au lieu de la première table, il en vit une autre de porphyre sur laquelle une main bienfaisante avait dressé une collation composée de gâteaux, de fruits secs et de vin de liqueur. C'était encore pour qu'il en fît usage. Ainsi, profitant des bontés qu'on lui témoignait, il usa de tout ce qui put flatter son appétit, son goût et sa délicatesse. Cependant, ne voyant personne à qui parler et qui l'instruisit si ce palais était la demeure ou d'un homme ou d'un dieu, la frayeur s'empara de ses sens, car il était naturellement peureux. Son parti fut de repasser dans tous les appartements. Il y comblait de bénédictions le génie auquel il était redevable de tant de bienfaits, et par des instances respectueuses, il le sollicitait de se montrer à lui. Tant d'empressements furent inutiles. Nulle apparence de domestique, nulle suite qui lui fit connaître que ce palais fût habité. Rêvant profondément à ce qu'il devait faire, il lui vint en pensée que pour des raisons qu'il ne pouvait pénétrer, quelque intelligence lui faisait présent de cette demeure avec toutes les richesses dont elle était remplie. Cette pensée lui parut être une inspiration, et sans tarder, faisant de nouveau la revue, il prit possession de tous ses trésors. Bien plus, en lui-même, il régla la part qu'il destinait à chacun de ses enfants, et marqua les logements qui pouvaient séparément leur convenir, et, se félicitant de la joie que leur causerait un pareil voyage, il descendit dans le jardin, où, malgré la rigueur de l'hiver, il vit, comme au milieu du printemps, les fleurs les plus rares exhaler une odeur charmante. On y respirait un air doux et tempéré. Des oiseaux de toute espèce, mêlant leur ramage au bruit confus des eaux, formaient une aimable harmonie. Le vieillard, extasié de tant de merveilles, disait en lui-même « Mes filles n'auront pas, je pense, de peine à s'accoutumer dans ce délicieux séjour. Je ne puis croire qu'elles regrettent ou qu'elles désirent la ville préférablement à cette demeure. Allons !» s'écria-t-il avec un transport de joie peu commun. « Partons à l'instant. Je me fais d'avance une félicité de voir la leur. N'en retardons pas la jouissance. » En entrant dans ce château si riant, il avait eu soin, malgré le grand froid dont il était pénétré, de débrider son cheval et de le faire aller vers une écurie qu'il avait remarquée dans la première cour. Une allée garnie de palissades formées par des berceaux de rosiers fleuris y conduisait. Jamais il n'avait vu de si belles roses. Leur odeur lui rappela le souvenir d'en avoir promis une à la belle. Il en cueillit une. Il allait continuer de faire 6 bouquets, mais un bruit terrible lui fit tourner la tête. Sa frayeur fut grande quand il aperçut à ses côtés une horrible bête qui, d'un air furieux, lui mit sur le col une espèce de trompe semblable à celle d'un éléphant et lui dit d'une voix effroyable
« Qui t'a donné la liberté de cueillir mes roses ? N'était-ce pas assez que je t'eusse souffert dans mon palais avec tant de bonté ? Loin d'en avoir de la reconnaissance téméraire, je te vois voler mes fleurs. Ton insolence ne restera pas impunie. »
Le bonhomme, déjà trop épouvanté de la présence inopinée de ce monstre, pensa mourir de frayeur à ce discours, et jetant promptement cette rose fatale, « Ah, mon seigneur ! » s'écria-t-il prosterné par terre. « Ayez pitié de moi ! Je ne manque point de reconnaissance. Pénétré de vos bontés, je ne me suis pas imaginé que si peu de choses fût capable de vous offenser. » Le monstre, tout en colère, lui répondit
« Tais-toi, maudit harangueur. Je n'ai que faire de tes flatteries ni des titres que tu me donnes. Je ne suis pas mon seigneur, je suis la bête, et tu n'éviteras pas la mort que tu mérites. »
Le marchand, consterné par une si cruelle sentence, croyant que le parti de la soumission était le seul qui le pût garantir de la mort, lui dit d'un air véritablement touché que la rose qu'il avait osé prendre était pour une de ses filles appelée la belle. Ensuite, soit qu'il espérât de retarder sa perte ou de toucher son ennemi de compassion, il lui fit le récit de ses malheurs, il lui raconta le sujet de son voyage et n'oublia pas le petit présent qu'il s'était engagé de faire à la belle, ajoutant que la chose à laquelle elle s'était restreinte pendant que les richesses d'un roi n'auraient à peine que suffi pour remplir les désirs de ses autres filles, venait, à l'occasion qui s'en était présentée, de lui faire naître l'envie de la contenter, qu'il avait cru le pouvoir faire sans conséquence, que d'ailleurs il lui demandait pardon de cette faute involontaire. La bête rêva un moment. Reprenant ensuite la parole, d'un ton moins furieux, elle lui tint ce langage.
« Je veux bien te pardonner, mais ce n'est qu'à condition que tu me donneras une de tes filles. Il me faut quelqu'un pour réparer cette faute. »«
Juste ciel, que me demandez-vous ? » reprit le marchand. « Comment vous tenir ma parole ? Quand je serais assez inhumain pour vouloir racheter ma vie aux dépens de celle d'un de mes enfants, de quel prétexte me servirais-je pour le faire venir ici ?»«
Il ne faut point de prétexte, » interrompit la bête. Je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement, ou je n'en veux point. Vois si entre elles il en est une assez courageuse et qui t'aime assez pour vouloir s'exposer afin de te sauver la vie. Tu portes l'air d'un honnête homme. Donne-moi ta parole de revenir dans un mois. Si tu peux en déterminer une à te suivre, elle restera dans ces lieux et tu t'en retourneras. Si tu ne le peux, promets-moi de revenir seul après leur avoir dit adieu pour toujours, car tu seras à moi.
Ne crois pas, poursuivit le monstre en faisant craquer ses dents,
accepter ma proposition pour te sauver. Je t'avertis que si tu pensais de cette façon, j'irais te chercher et que je te détruirais avec ta race quand 100 000 hommes se présenteraient pour te défendre.
Le bonhomme, quoique très persuadé qu'il tenterait inutilement l'amitié de ses filles, accepta cependant la proposition du monstre. Il lui promit de revenir, au temps marqué, se livrer à sa triste destinée, sans qu'il fût nécessaire de le venir chercher. Après cette assurance, il crut être le maître de se retirer, et pouvoir prendre congé de la bête, dont la présence ne pouvait que l'affliger. La grâce qu'il en avait obtenue était légère, mais il craignait encore qu'elle ne la révoquât. Il lui fit connaître l'envie qu'il avait de partir. La bête lui répondit qu'il ne partirait que le lendemain.
« Tu trouveras, lui dit-elle, un cheval prêt dès qu'il fera jour. En peu de temps, il te mènera. Adieu, va souper et attends mes ordres. »
Ce pauvre homme, plus mort que vif, reprit le chemin du salon dans lequel il avait fait si bonne chère. Vis-à-vis d'un grand feu, son souper déjà servi l'invitait à se mettre à table. La délicatesse et la somptuosité des mets n'avaient plus rien qui le flattasse. Accablé de son malheur, s'il n'eût pas craint que la bête cachée en quelque endroit ne l'eût observé, s'il eût été sûr de ne pas exciter sa colère par le mépris qu'il eût fait de ses biens, il ne se serait pas mis à table. Pour éviter un nouveau désastre, il fit un moment trêve avec sa douleur, et autant que son cœur affligé le lui put permettre, il goûta suffisamment de tous les mets. À la fin du repas, un grand bruit dans l'appartement voisin se fit entendre. Il ne douta point que ce ne fût son formidable hôte. Comme il n'était pas le maître d'éviter sa présence, il essaya de se remettre de la frayeur que ce bruit subit venait de lui causer. À l'instant, la bête qui parut lui demanda brusquement
s'il avait bien soupé.
Le bonhomme lui répondit d'un ton modeste et craintif qu'il avait, grâce à ses attentions, beaucoup mangé.
« Promets-moi, reprit le monstre, de te souvenir de la parole que tu viens de me donner, et de la tenir en homme d'honneur, en amenant une de tes filles. »
Le vieillard, que cette conversation n'amusait pas, lui jura d'exécuter ce qu'il avait promis, et d'être de retour dans un mois, seul ou avec une de ses filles, s'il s'en trouvait qu'il aimât assez pour le suivre aux conditions qu'il lui devait proposer.
« Je t'avertis de nouveau, dit la bête, de prendre garde à ne la pas surprendre sur le sacrifice que tu dois exiger d'elle et sur le danger qu'elle encourra. Peins-lui ma figure telle qu'elle est, qu'elle sache ce qu'elle va faire, surtout qu'elle soit ferme dans ses résolutions. Il ne sera plus temps de faire des réflexions quand tu l'auras amenée ici. Il ne faut pas qu'elle se dédise. Tu seras également perdu sans qu'elle ait la liberté de s'en retourner. »
Le marchand, qu'un pareil discours assommait, lui réitéra la promesse de se conformer en tout à ce qu'elle venait de lui prescrire. Le monstre, content de sa réponse, lui commanda de se coucher, et de ne se pas lever qu'il ne vît le soleil et qu'il n'eût entendu une sonnette d'or.
« Tu déjeuneras avant de partir, lui dit-il encore, et tu peux emporter une rose pour la belle. le cheval qui te doit porter sera prêt dans la cour. Je compte te revoir dans un mois, pour peu que tu sois honnête homme. Adieu. Si tu manques de probité, je t'irai rendre visite. »
Le bonhomme, de peur de prolonger une conversation déjà trop ennuyeuse pour lui, fit une profonde révérence à la bête, qui l'avertit encore de se ne point inquiéter du chemin pour son retour, qu'au temps marqué, le même cheval qu'il monterait demain matin se trouverait à sa porte et suffirait pour sa fille et pour lui. Quelque peu d'envie que le vieillard eût de dormir, il n'osa passer les ordres qu'il avait reçus. Obligé de se coucher, il ne se leva que quand le soleil commença de luire dans sa chambre. Son déjeuner fut prompt. Ensuite, il descendit dans le jardin, cueillir la rose que la bête avait ordonné qu'il emportât. Que cette fleur lui fit répandre de larmes! Mais par la crainte de s'attirer de nouveaux malheurs, il se contraignit et fut sans retardement chercher le cheval qui lui avait été promis. Il trouva sur la selle un manteau chaud et léger. Il y fut bien plus commodément que sur le sien. Dès que le cheval le sentit assis, il partit avec une vitesse incroyable. Le marchand, qui dans un instant perdit de vue ce fatal palais, ressentit autant de joie qu'il avait eu la veille de plaisir à l'apercevoir, avec cette différence que la douceur de s'en éloigner était empoisonnée de la cruelle nécessité d'y retourner.
« À quoi me suis-je engagé ? »
dit-il, pendant que son coursier le portait avec une promptitude et une légèreté qui n'est connue que dans le pays des contes.
Ne valait-il pas mieux que je devinsse tout d'un coup la victime de ce monstre altéré du sang de ma famille? Par une promesse que j'ai faite, aussi dénaturée qu'indiscrète, il m'a prolongé la vie. Est-il possible que j'aie pu penser à sauver mes jours aux dépens de ceux d'une de mes filles? Aurais-je la barbarie de l'emmener pour l'avoir sans doute dévoré à mes yeux?
Mais tout d'un coup, s'interrompant lui-même,
« Eh malheureux ! » s'écriait-il, « est-ce ce que je dois le plus craindre ? Quand je pourrais dans mon cœur faire taire la voix du sang, dépendrait-il de moi de commettre cette lâcheté ? Il faut qu'elle sache son sort et qu'elle y consente. Je ne vois nulle apparence qu'elle veuille se sacrifier pour un père inhumain, et je ne dois pas lui faire pareille proposition, elle est injuste. Mais je veux que l'affection qu'elles ont toutes pour moi en engageât une à se dévouer. La seule vue de la bête ne détruirait-elle pas sa constance, et je ne pourrais m'en plaindre. Ah, trop impérieuse bête ! Dit-il avec exclamation. « Tu l'as fait exprès en mettant une condition impossible aux moyens que tu m'offres pour éviter ta fureur et obtenir le pardon d'une faute aussi légère. C'est ajouter l'insulte à la peine. Mais, continua-t-il, c'est trop y penser. Je ne balance plus, et j'aime mieux m'exposer sans détour à ta rage que de tenter un secours inutile et dont l'amour paternel est épouvanté. Reprenons, continua-t-il, le chemin de ce funeste palais. Et dédaignant d'acheter si cher les restes d'une vie qui ne pourrait être que misérable avant le mois qui nous est accordé, retournons terminer dès aujourd'hui nos malheureux jours. » À ces mots, il voulut revenir sur ses pas, mais il lui fut impossible de faire retourner bride à son cheval. Se laissant malgré lui conduire, du moins il prit le parti de ne rien proposer à ses filles. Déjà de loin, il voyait sa maison, et se fortifiant de plus en plus dans sa résolution, « Je ne leur parlerai point, disait-il, du danger qui me menace. J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Je leur donnerai mes derniers conseils. Je les prierai de bien vivre avec leurs frères, à qui je recommanderai de ne les pas abandonner. » Au milieu de ses rêveries, il arriva chez lui. Son cheval, revenu le soir précédent, avait inquiété sa famille. Ses fils, dispersés dans la forêt, l'avait cherché de tous les côtés, et ses filles, dans l'impatience d'en avoir des nouvelles, étaient à leur porte pour s'en informer au premier qu'elles verraient. Comme il était monté sur un magnifique cheval et enveloppé d'un riche manteau, pouvait-elle le reconnaître? Elles le prirent d'abord pour un homme qui venait de sa part, et la rose qu'elles aperçurent attachée au pommeau de la selle acheva de les tranquilliser. Lorsque ce père affligé se trouva plus proche, elles le reconnurent. On ne songea qu'à lui témoigner la satisfaction qu'on avait de le voir de retour en bonne santé. Mais la tristesse peinte sur son visage, et ses yeux remplis de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir,
changèrent l'allégresse en inquiétude. Tous s'empressèrent à lui demander le sujet de sa peine. Il ne répondit rien autre chose, sinon que de dire à la belle, en lui présentant la rose fatale,
« Voilà ce que tu m'as demandé. Tu le payeras cher aussi bien que les autres. »
« Je le savais bien, » dit l'aînée, « et j'assurais tout à l'heure qu'elle serait la seule à qui vous apporteriez ce qu'elle demanderait. Pour forcer la saison, il n'a pas fallu donner moins que ce que vous auriez employé pour nous cinq ensemble. Cette rose, selon les apparences, sera flétrie avant la fin du jour. N'importe à quelque prix que ce fût, vous avez voulu satisfaire l'heureuse belle. »
« Il est vrai, » reprit tristement le père, « que cette rose me coûte cher, et plus cher que tous les ajustements que vous souhaitiez n'auraient coûté. Ce n'est pas en argent, et plutôt ciel que je l'eusse acheté de tout ce qui me reste de bien. »
Ce discours excita la curiosité de ses enfants et fit évanouir la résolution qu'il avait prise de ne pas révéler son aventure. Il leur apprit le mauvais succès de son voyage, la peine qu'il avait eue à courir après une fortune chimérique, et tout ce qui s'était passé dans le palais du monstre. Après cet éclaircissement, le désespoir prit la place de l'espérance et de la joie. Les filles, voyant par ce coup de foudre tous leurs projets anéantis, poussèrent des cris épouvantables. Les frères, plus courageux, dirent résolument qu'ils ne souffriraient point que leur père retournât dans ce funeste château, qu'ils étaient assez courageux pour délivrer la terre de cette horrible bête, supposée qu'elle eût la témérité de le venir chercher. Le bonhomme, quoique touché de leur affliction, leur défendit les violences en disant que, puisqu'il avait donné sa parole, il se donnerait la mort plutôt que d'y manquer. Fin de la deuxième partie. Lue par Ezoie, en Belgique, en mai 2009. Troisième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Troisième partie. Cependant, ils cherchèrent des expédients pour lui sauver la vie. Ces jeunes gens, remplis de courage et de vertu, proposèrent que l'un d'eux fût s'offrir au courroux de la bête. Mais elle s'était expliquée positivement en disant qu'elle voulait une des filles, et non pas un des garçons. Ses braves frères, fâchés que leur bonne volonté ne pût avoir son exécution, firent ce qu'ils purent pour inspirer les mêmes sentiments à leur sœur. Mais leur jalousie contre la belle était suffisante pour mettre un obstacle invincible à cette action héroïque.
« Il n'est pas juste, » dirent-elles, « que nous périssions d'une façon épouvantable pour une faute dont nous ne sommes pas coupables. Ce serait nous rendre les victimes de la belle à qui l'on serait bien aise de nous sacrifier. » Mais le devoir n'exige pas de tels sacrifices de nous. Voilà quel est le fruit de la modération et des moralités perpétuelles de cette malheureuse. Que ne demandait-elle comme nous des nippes et des bijoux? Si nous ne les avons pas eus, du moins il n'en a rien coûté pour les demander, et nous n'avons pas lieu de nous reprocher d'avoir exposé la vie de notre père par des demandes indiscrètes. Si par un désintéressement affecté, elle n'avait pas voulu se distinguer, comme elle est en tout plus heureuse que nous, il se serait sans doute trouvé assez d'argent pour la contenter. Mais il fallait que par un singulier caprice, elle fût la cause de tous nos malheurs. C'est elle qui nous les attire, et c'est sur nous qu'on veut les faire rejaillir. Nous n'en serons pas les dupes. Elle les a causés, qu'elle y mette le remède. »
La belle, à qui la douleur avait presque ôté la connaissance, faisant taire ses sanglots et ses soupirs, dit à ses sœurs, « Je suis coupable de ce malheur. C'est à moi seule de le réparer. J'avoue qu'il serait injuste que vous souffrissiez de ma faute. Hélas, elle est pourtant bien innocente. Pouvais-je prévoir que le désir d'avoir une rose au milieu de l'été devait être puni par un tel supplice? Cette faute est faite. Que je sois innocente ou coupable, il est juste que je l'expie. On ne peut l'imputer à d'autres. Je m'exposerai, poursuivit-elle d'un ton ferme, pour tirer mon père de son fatal engagement. J'irai trouver la bête, trop heureuse en mourant de conserver la vie à celui de qui je l'ai reçue et de faire cesser vos murmures. Ne craignez pas que rien m'en puisse détourner. Mais de grâce, pendant ce mois, donnez-moi le plaisir de ne plus entendre vos reproches. » Tant de fermeté dans une fille de son âge les surprit beaucoup, et ses frères, qui l'aimaient tendrement, furent touchés de sa résolution.
Elle avait pour eux des attentions infinies, et ils sentirent la perte qu'ils allaient faire. Mais il s'agissait de sauver la vie d'un père. Ce pieux motif leur ferma la bouche, et très persuadés que c'était une chose résolue, loin de penser à combattre un si généreux dessein, ils se contentèrent de répandre des larmes, et de donner à leur sœur les louanges que méritait sa noble résolution, d'autant plus grande que n'ayant que 16 ans, elle avait droit de regretter une vie qu'elle voulait sacrifier d'une façon si cruelle. Le père seul ne voulut pas consentir au dessein que prenait sa fille cadette. Mais les autres insolemment lui reprochèrent que la belle seule le touchait, que malgré les malheurs dont elle était cause, il était fâché que ce ne fût pas une de ses aînées qui payât son imprudence. De si injustes discours le forcèrent à ne plus insister. D'ailleurs, la belle venait de l'assurer que quand il n'accepterait pas l'échange, elle le ferait malgré lui, puisqu'elle irait seule chercher la bête et qu'elle se perdrait sans le sauver. « Que sait-on ? » dit-elle, en s'efforçant de témoigner plus de tranquillité qu'elle n'en avait. « Peut-être que le sort effroyable qui m'est destiné en cache un autre aussi fortuné qu'il paraît terrible. » Ses sœurs, en l'entendant parler ainsi, souriaient malicieusement de cette chimérique pensée. Elles étaient ravies de l'erreur dans laquelle elles la croyaient. Mais le vieillard, vaincu par toutes ses raisons, et se ressouvenant d'une ancienne prédiction, par laquelle il avait appris que cette fille lui devait sauver la vie, et qu'elle serait la source du bonheur de toute sa famille, cessa de s'opposer à la volonté de la belle. Insensiblement, on parla de leur départ comme d'une chose presque indifférente. C'était elle qui donnait le ton à la conversation. Et si, dans leur présence, elle paraissait compter sur quelque chose d'heureux, ce n'était uniquement que pour consoler son père et ses frères, et ne pas les alarmer davantage. Quoique mécontente de la conduite de ses sœurs à son égard, qui paraissait comme impatiente de la voir partir, et qui trouvait que le mois s'écoulait avec trop de lenteur, elle eut la générosité de leur partager tous les petits meubles et les bijoux qu'elle avait en sa disposition. Elles reçurent avec joie cette nouvelle preuve de sa générosité, sans que leur haine fût adoucie. Une extrême joie s'empara de leur cœur quand elles entendirent hennir le cheval envoyé pour porter une sœur que la noire jalousie ne leur faisait pas trouver aimable. Le père et les fils seuls affligés ne pouvaient tenir contre ce fatal moment. Ils voulaient égorger le cheval, mais la belle, conservant toute sa tranquillité, leur remontra dans cette occasion tout le ridicule de ce dessein et l'impossibilité de l'exécuter. Après avoir pris congé de ses frères, elle embrassa ses insensibles sœurs, en leur faisant un adieu si touchant qu'elle leur arracha quelques larmes et qu'elles se crurent l'espace de quelques minutes presque autant affligées que leurs frères. Pendant ces regrets courts et tardifs, le bonhomme pressé par sa fille étant monté sur son cheval, elle se mit en croupe avec le même empressement que s'il se fût agi d'un voyage fort agréable. L'animal parut plutôt voler que marcher. Cette extrême diligence ne l'incommoda point. L'allure de ce cheval singulier était si douce que la belle ne ressentit d'autre agitation que celle qui provenait du souffle des zéphyrs. En vain, sur la route, son père 100 fois lui fit offre de la mettre à terre et d'aller seul retrouver la bête. « Pense, ma chère enfant, lui disait-il, qu'il est encore temps. Ce monstre est plus épouvantable que tu ne peux l'imaginer. Quelque ferme que soit ta résolution, je crains qu'elle ne manque à son aspect. » Alors il sera trop tard, tu seras perdu et nous périrons tous deux. Si j'allais chercher cette bête terrible, reprenait prudemment la belle, avec l'espérance d'être heureuse, il ne serait pas impossible que cet espoir ne m'abandonnât en la voyant. Mais comme je compte sur une mort prochaine, et que je la crois assurée, que m'importe que ce qui me la doit donner soit agréable ou hideux. En s'entretenant ainsi, la nuit vint, et le cheval ne marcha pas moins dans l'obscurité. Par le plus surprenant spectacle, elle se dissipa tout d'un coup. Ce furent des fusées de toutes façons, des pots à feu, des moulinets, des soleils, des gerbes et tout ce que l'artifice peut inventer de plus beau qui vinrent frapper les yeux de nos deux voyageurs. Cette lumière agréable et imprévue, éclairant toute la forêt, répandit dans l'air une douce chaleur qui commençait à devenir nécessaire, parce que le froid dans ce pays se fait sentir d'une façon plus piquante la nuit que le jour. À la faveur de cette charmante clarté, le père et la fille se trouvèrent dans l'avenue d'Oranger. Au moment qu'ils y furent, le feu d'artifice cessa.
sa lumière fut remplacée par toutes les statues, lesquelles avaient dans leurs mains des flambeaux allumés. De plus, des lampions sans nombre couvraient toute la façade du palais. Placés en symétrie, ils formaient des lacs d'amour et des chiffres couronnés où l'on voyait des doubles LL et des doubles BB. En entrant dans la cour, ils furent régalés d'une salve d'artillerie qui, se joignant au bruit de 1000 instruments divers, tant doux que guerriers, firent une harmonie charmante. « Il faut, dit la belle en raillant, que la bête soit bien affamée pour faire une telle réjouissance à l'arrivée de sa proie. » Cependant, malgré l'émotion que lui causait l'approche d'un événement qui, selon l'apparence, allait lui devenir fatal, en donnant toute son attention à tant de magnificences qui se succédaient les unes aux autres et lui présentaient le plus beau spectacle qu'elle eût jamais vu, elle ne put s'empêcher de dire à son père que les préparatifs de sa mort étaient plus brillants que la pompe nuptiale du plus grand roi de la terre. Le cheval fut s'arrêter au bas du perron. Elle en descendit légèrement, et son père, dès qu'il eut mis pied à terre, la conduisit par un vestibule au salon dans lequel il avait été si bien régalé. Ils y trouvèrent un grand feu, des bougies allumées qui répandaient un parfum exquis, et de plus, une table splendidement servie. Le bonhomme, au fait de la façon dont la bête nourrissait ses hôtes, dit à sa fille que ce repas était destiné pour eux, qu'il était à propos d'en faire usage. La belle n'en fit nulle difficulté, bien persuadée que cela n'avancerait pas sa mort. Au contraire, elle s'imagina que ce serait faire connaître au monstre le peu de répugnance qu'elle avait eue de le venir trouver. Elle se flatta que sa franchise serait capable de l'adoucir, et même que son aventure pourrait être moins triste qu'elle ne l'avait appréhendée d'abord. Cette bête épouvantable, dont on l'avait menacée, ne se montrait point. Tout dans le palais respirait la joie et la magnificence. Il paraissait que son arrivée l'avait fait naître, et il n'était pas vraisemblable qu'elle fût les apprêts d'une pompe funèbre. Son espérance ne dura guère. Le monstre se fit entendre. Un bruit effroyable, causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles et par des hurlements affreux, annonça son arrivée. La terreur s'empara de la belle. Le vieillard, en embrassant sa fille, poussa des cris perçants. Mais, devenue dans un instant maîtresse de ses sens, elle se remit de son agitation. En voyant approcher la bête, qu'elle ne peut envisager sans frémir en elle-même, elle avança d'un pas ferme et d'un air modeste salua fort respectueusement la bête. Cette démarche plut au monstre. Après l'avoir considéré d'un ton qui, sans avoir l'air courroucé, pouvait inspirer de la terreur au plus hardi, il dit au vieillard « Bonsoir, bonhomme !» Et, se retournant vers la belle, il lui dit pareillement « Bonsoir, la belle !» Le vieillard, toujours appréhendant qu'il n'arrivât quelque chose de sinistre à sa fille, n'eut pas la force de répondre. Mais la belle, sans s'émouvoir, et d'une voix douce et assurée, lui dit « Bonsoir, la bête !»«
Venez-vous ici volontairement ?» reprit la bête. Et consentez-vous à laisser partir votre père sans le suivre ?
La belle lui répondit qu'elle n'avait pas eu d'autre intention.
Hé ! Que croyez-vous que vous deviendrez après son départ ?
Ce qui vous plaira, dit-elle, ma vie est en votre disposition, et je me soumets aveuglément à ce que vous ordonnerez de mon sort.
Votre docilité me satisfait, reprit la bête, et puisqu'il est ainsi qu'on ne vous a point amené par force, vous resterez avec moi. Quant à toi, bonhomme, dit-elle au marchand, tu partiras demain au lever du soleil, la cloche t'avertira. Ne tarde pas après ton déjeuner. Le même cheval te conduira chez toi. Mais, ajouta-t-elle, quand tu seras au milieu de ta famille, ne songe pas à revoir mon palais, et souviens-toi qu'il t'est interdit pour toujours. Vous, la belle, continua le monstre en s'adressant à elle, conduisez votre père dans la garde-robe prochaine. Choisissez-y tout ce que l'un et l'autre croiraient pouvoir faire plaisir à vos frères et à vos sœurs. Vous trouverez deux mâles, emplissez-les. Il est juste que vous leur envoyiez quelque chose d'un assez grand prix pour les obliger à se souvenir de vous.
Malgré la libéralité du monstre, le prochain départ du père touchait sensiblement la belle et lui causait un chagrin extrême. Cependant, elle se mit en devoir d'obéir à la bête, qui les quitta après leur avoir dit, comme elle avait fait en entrant,
« Bonsoir, la belle. Bonsoir, bonhomme. »
Lorsqu'ils furent seuls, le bonhomme, en embrassant sa fille, ne cessa de pleurer. L'idée qu'il allait la laisser avec le monstre était pour lui le plus cruel des supplices. Il se repentait de l'avoir conduite en ce lieu. Les portes étaient ouvertes, il eût voulu la ramener, mais la belle lui fit connaître les dangers et les suites du dessein qu'il prenait. Ils entrèrent dans la garde-robe qui leur était indiquée. Ils furent surpris des richesses qu'ils y trouvèrent. Elles étaient remplies d'ajustements si superbes qu'une reine n'eût pu souhaiter rien de plus beau ni d'un meilleur goût. Jamais boutique ne fut mieux assortie. Lorsque la belle eut choisi les parures qu'elle crut les plus convenables, non à la situation présente de sa famille, mais proportionnées aux richesses et à la libéralité de la bête qui lui faisait ses dons, elle ouvrit une armoire dont la porte était de cristal de roche monté en or. À l'aspect d'un si magnifique dehors, quoiqu'elle dût s'attendre à trouver un trésor rare et précieux, elle vit un amas de pierreries de toute espèce dont à peine ses yeux purent supporter l'éclat. La belle, par un esprit de soumission, en prit sans ménagement une quantité prodigieuse qu'elle assortit des mieux à chacun des lots qu'elle avait faits. À l'ouverture de la dernière armoire, qui n'était autre chose qu'un cabinet rempli de pièces d'or, elle changea de dessin. « Je pense, dit-elle à son père, qu'il serait plus à propos de vider ces malles et de les remplir d'espèces. Vous en donnerez à vos enfants ce qu'il vous plaira. Par ce moyen, vous ne serez pas obligé d'avoir personne dans votre secret, et vos richesses seront à vous sans danger. L'avantage que vous tireriez des pierreries, quoique le prix en soit beaucoup plus considérable, ne pourrait jamais vous être si commode. Pour en jouir, vous seriez forcé de les vendre et de les confier à des personnes qui ne jetteraient sur vous que des yeux d'envie. Votre confiance même vous deviendrait peut-être fatale, et des pièces d'or monnayées vous mettront, continua-t-elle, à l'abri de tout fâcheux événement en vous donnant la facilité d'acquérir des terres, des maisons et d'acheter des meubles précieux, des bijoux et des pierreries. Le père approuva sa pensée, mais voulant porter à ses filles des parures et des ajustements, pour faire place à l'or qu'il voulait prendre, il ôta des malles ce qu'il avait choisi pour son usage. La grande quantité d'espèces qu'il y mit ne les remplissait point. Elles étaient composées de plis qui se relâchaient à mesure. Il trouva de la place pour les bijoux qu'il avait ôtés, et ces malles enfin contenaient plus qu'il ne voulait.
« Tant d'espèces, disait-il à sa fille, me mettront en état de vendre mes pierreries à ma commodité. Suivant ton conseil, je cacherai mes richesses à tout le monde, et même à mes enfants. S'ils me savaient aussi riche que je le vas être, ils me tourmenteraient pour abandonner la vie champêtre, qui cependant est la seule où j'ai trouvé de la douceur, et où je n'ai pas éprouvé la perfidie des faux amis dont le monde est rempli. »
Mais les malles étaient d'une si grande pesanteur qu'un éléphant eût succombé sous le poids, et l'espoir dont il venait de se repaître lui parut comme un songe, et rien de plus.
« La bête s'est moquée de nous, dit-il. Elle a faim de me donner des biens qu'elle me met dans l'impossibilité d'emporter. »
« Suspendez votre jugement, répondit la belle. Vous n'avez point provoqué sa libéralité par aucune demande indiscrète, ni par aucun regard avide et intéressé. La raillerie serait fade. Je pense, puisque le monstre vous a prévenu, qu'il trouvera bien le moyen de vous en faire jouir. Nous n'avons qu'à fermer les malles et les laisser ici. Apparemment qu'il sait par quelle voiture vous les envoyez. » On ne pouvait penser plus prudemment. Le bonhomme, se conformant à cet avis, rentra dans le salon avec sa fille. Assis l'un et l'autre sur un sofa, ils virent dans un instant le déjeuner servi. Le père mangea de meilleur appétit qu'il n'avait fait le soir précédent. Ce qui venait de se passer diminuait son désespoir et faisait renaître sa confiance. Il serait parti sans chagrin si la bête n'eût point eu la cruauté de lui faire entendre qu'il ne songeât plus à revoir son palais et qu'il fallait qu'il dît à sa fille un éternel adieu. On ne connaît de mal sans remède que celui de la mort.
Le bonhomme ne fut point absolument frappé de cet arrêt. Il se flattait qu'il ne serait pas irrévocable, et cette espérance le fit partir assez content de son hôte. Fin de la troisième partie de La Belle et la Bête, enregistrée par Ezois, en Belgique, en septembre 2009. Quatrième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quatrième partie. La Belle n'était pas si satisfaite. Peu persuadée qu'un heureux avenir lui fût préparé, elle appréhendait que les riches présents dont le monstre comblait sa famille ne fussent le prix de sa vie et qu'il ne la dévorât aussitôt qu'il serait seul avec elle. Du moins, elle craignait qu'une éternelle prison ne lui fût destinée et qu'elle n'eût pour unique compagnie qu'une épouvantable bête. Cette réflexion la plongea dans une profonde rêverie. Mais un second coup de cloche les avertit qu'il était temps de se séparer. Ils descendirent dans la cour où le père trouva deux chevaux, l'un chargé de deux mâles et l'autre uniquement destiné pour lui. Ce dernier, couvert d'un bon manteau et la selle garnie de deux bourses remplies de rafraîchissements, était le même qu'il avait déjà monté. De si grandes attentions de la part de la bête allaient encore fournir matière à la conversation. Mais les chevaux, hennissant et grattant du pied, firent connaître qu'il était temps de se séparer. Le marchand, de peur d'irriter la bête par son retardement, fit à sa fille un éternel adieu. Les deux chevaux partirent plus vite que le vent, et cette belle, dans un instant, les perdit de vue. Elle remonta tout en pleurs dans la chambre qui devait être la sienne, où pendant quelques moments, elle fit les plus tristes réflexions. Cependant, le sommeil l'accablant, elle voulut chercher un repos que depuis plus d'un mois elle avait perdu. N'ayant rien de mieux à faire, elle allait se coucher lorsqu'elle aperçut sur sa table de nuit une prise de chocolat préparée. Elle la prit tout endormie, et ses yeux s'étant presque aussitôt fermés, elle tomba dans un sommeil tranquille que depuis le moment qu'elle avait reçu la rose fatale, elle avait entièrement inconnu. Pendant son sommeil, elle rêva qu'elle était au bord d'un canal à perte de vue, dont les deux côtés étaient ornés de deux rangs d'orangers et des myrtes fleuries d'une hauteur prodigieuse, où, toute occupée de sa triste situation, elle déplorait l'infortune qui la condamnait à passer ses jours en ce lieu, sans espoir d'en sortir. Un jeune homme beau, comme on dépeint l'amour, d'une voix qui lui portait au cœur, lui dit « Ne crois pas, la belle, être si malheureuse que tu le parais. C'est dans ces lieux que tu dois recevoir la récompense qu'on t'a refusée injustement partout ailleurs. Fais agir ta pénétration pour me démêler des apparences qui me déguisent. Juge, en me voyant, si ma compagnie est méprisable et ne doit pas être préférée à celle d'une famille indigne de toi. Souhaite, tous tes désirs seront remplis. Je t'aime tendrement. Seule, tu peux faire mon bonheur en faisant le tien. Ne te dément jamais. Étant par les qualités de ton âme autant au-dessus des autres femmes que tu leur es supérieure en beauté, nous serons parfaitement heureux. » Ensuite, ce fantôme si charmant lui parut à ses genoux joindre aux plus flatteuses promesses les discours les plus tendres. Il la pressait dans les termes les plus vifs de consentir à son bonheur et l'assurait qu'elle en était entièrement la maîtresse. « Que puis-je faire ? » lui dit-elle avec empressement. « Suis les seuls mouvements de la reconnaissance, » répondit-il. « Ne consulte point tes yeux, et surtout ne m'abandonne pas, et me tire de l'affreuse peine que j'endure. » Après ce premier rêve, elle crut être dans un cabinet magnifique avec une dame dont l'air majestueux et la beauté surprenante firent naître en son cœur un respect profond. Cette dame, d'une façon caressante, lui dit « Charmante belle, ne regrette point ce que tu viens de quitter. Un sort plus illustre t'attend. Mais si tu veux le mériter, garde-toi de te laisser séduire par les apparences. » Son sommeil dura plus de 5 heures, pendant lesquelles elle vit le jeune homme en 100 endroits différents et de 100 différentes façons. Tantôt il lui donnait une fête galante, tantôt il lui faisait les protestations les plus tendres.
que son sommeil fût agréable. Elle eût désiré le prolonger, mais ses yeux ouverts à la lumière ne purent se refermer, et la belle crut n'avoir eu que le plaisir d'un songe. Une pendule qui sonna 12 heures en répétant 12 fois son nom en musique l'obligea de se lever. Elle vit d'abord une toilette garnie de tout ce qui peut être nécessaire aux dames. Après s'être parée avec une sorte de plaisir, dont elle ne devinait pas la cause, elle passa dans le salon où son dîner venait d'être servi. Quand on mange seul, un repas est bientôt pris. De retour dans sa chambre, elle se jeta sur un sofa. Le jeune homme auquel elle avait rêvé vint se présenter à sa pensée.
« Je puis faire ton bonheur, » m'a-t-il dit. « Apparemment que l'horrible bête qui paraît commander ici le retient en prison. Comment l'en tirer ? On m'a répété de ne pas m'en rapporter aux apparences. Je n'y comprends rien, mais que je suis folle. Je m'amuse à chercher des raisons pour expliquer une illusion que le sommeil a formée et que le réveil a détruite. Je n'y dois point faire attention. Il ne faut m'occuper que de mon sort présent et chercher des amusements qui m'empêchent de succomber à l'ennui. » Quelque temps après, elle se mit à parcourir les nombreux appartements du palais. Elle en fut enchantée, n'ayant jamais rien vu de si beau. Le premier dans lequel elle entra fut un grand cabinet de glace. Elle s'y voyait de toutes parts. D'abord un bracelet pendant à une girandole vint lui frapper la vue. Elle y trouva le portrait du beau cavalier, tel qu'elle avait cru le voir en dormant. Comment eût-elle pu le méconnaître? Ses traits étaient déjà trop fortement gravés dans son esprit, et peut-être dans son cœur. Avec une joie empressée, elle mit ce bracelet à son bras, sans réfléchir si cette action était convenable. De ce cabinet, ayant passé dans une galerie remplie de peintures, elle y retrouva le même portrait de grandeur naturelle, qui semblait la regarder avec une si tendre attention qu'elle en rougit, comme si cette peinture eût été ce qu'elle représentait, ou qu'elle eût eu des témoins de sa pensée. Continuant sa promenade, elle se trouva dans une salle remplie de différents instruments. Sachant jouer de presque tous, elle en essaya plusieurs, préférant le clavecin aux autres, parce qu'il accompagnait mieux sa voix. De cette salle, elle entra dans une autre galerie que celle des peintures. Elle contenait une bibliothèque immense. Elle aimait à s'instruire, et depuis son séjour à la campagne, elle avait été privée de cette douceur. Son père, par le dérangement de ses affaires, s'était trouvé forcé de vendre ses livres. Son grand goût pour la lecture pouvait aisément se satisfaire dans ce lieu et la garantir de l'ennui de la solitude. Le jour se passa sans qu'elle pût tout voir. Aux approches de la nuit, tous les appartements furent éclairés de bougies parfumées, mises dans des lustres ou transparents ou de différentes couleurs, et non de cristal, mais de diamants et de rubis. À l'heure ordinaire, la belle trouva son souper servi avec la même délicatesse et avec la même propreté. Nulle figure humaine ne se présenta devant elle. Son père l'avait prévenue qu'elle serait seule. Cette solitude commençait à ne lui plus faire de peine quand la bête se fit entendre à ses oreilles. Ne s'étant point encore trouvée seule avec elle, ignorant comment cette entrevue allait se passer, craignant même qu'elle ne vînt pour la dévorer, pouvait-elle ne pas trembler? Mais à l'arrivée de la bête, qui dans son abord ne montra rien de furieux, ses frayeurs se dissipèrent. Ce monstrueux colosse lui dit grossièrement « Bonsoir, la belle !» Elle lui rendit son salut dans les mêmes termes, avec un air doux, mais un peu tremblant. Entre les différentes questions que ce monstre lui fit, il lui demanda comment elle s'était amusée. La belle lui répondit « J'ai passé la journée à visiter votre palais, mais il est si vaste que je n'ai pas eu le temps de voir tous les appartements et les beautés qu'ils contiennent. » La bête lui demanda « Croyez-vous pouvoir vous accoutumer ici ?» Cette fille, poliment, lui répondit que sans peine elle vivrait dans un si beau séjour. Après une heure de conversation sur le même sujet, la belle, au travers de sa voix épouvantable, distinguait aisément que c'était un ton forcé par les organes, et que la bête penchait plus vers la stupidité que vers la fureur. Elle lui demanda sans détour si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent, et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel, je suis perdue !»«
Nullement, » reprit tranquillement la bête. « Mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. »
La belle lui répondit en tremblant « Non, la bête. »
« Eh bien, puisque vous ne voulez pas, » repartit le monstre docile, « je m'en vais. Bonsoir, la belle. »«
Bonsoir, la bête, » dit avec une grande satisfaction cette fille effrayée. Extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre, elle se coucha tranquillement et s'endormit. Aussitôt, son cher inconnu revint à son esprit. Il parut lui dire tendrement « Que j'ai de joie de vous revoir, ma chère belle, mais que votre rigueur me cause de maux. Je connais qu'il faut m'attendre d'être longtemps malheureux. » Ses idées changèrent d'objet. Il lui semblait que ce jeune homme lui présentait une couronne. Le sommeil la lui faisait voir de 100 façons différentes. Quelquefois, il lui paraissait être à ses pieds tantôt s'abandonnant à la joie la plus excessive, tantôt répandant un torrent de larmes dont elle était touchée jusqu'au fond de l'âme. Ce mélange de joie et de tristesse dura toute la nuit. À son réveil, ayant l'imagination frappée de ce cher objet, elle chercha son portrait pour le confronter encore et pour voir si elle ne s'était point trompée. Elle courut à la galerie des peintures où elle le reconnut encore mieux. Qu'elle fut de temps à l'admirer. Mais ayant honte de sa faiblesse, elle se contenta de regarder celui qu'elle avait au bras. Cependant, pour mettre fin à ses tendres réflexions, elle descendit dans les jardins. Le beau temps l'invitait à la promenade. Ses yeux furent enchantés. Il n'avait jamais rien vu de si beau dans la nature. Les bosquets étaient ornés de statues admirables et de jets d'eau sans nombre qui rafraîchissaient l'air et dont l'extrême hauteur les faisait presque perdre de vue. Ce qui la surprit le plus, c'est qu'elle y reconnut les lieux où, dans son sommeil, elle avait rêvé voir l'inconnu. Surtout à la vue du grand canal bordé d'orangers et de myrtes, elle ne sut que penser de ce songe qui ne lui paraissait plus une fiction. Elle crut en trouver l'explication en s'imaginant que la bête retenait quelqu'un dans son palais. Elle résolut de s'en éclaircir dès le soir même et de le demander au monstre dont elle s'attendait d'avoir une visite à l'heure ordinaire. Autant que ses forces le lui permirent, elle se promena le reste du jour, sans pouvoir encore tout considérer. Les appartements qu'elle n'avait pu voir la veille ne méritaient pas moins ses regards que les autres. Outre les instruments et les curiosités dont elle était environnée, elle trouva dans un autre cabinet de quoi s'occuper. Il était garni de bourses, de navettes pour faire des nœuds, de ciseaux à découper, d'ateliers montés pour toutes sortes d'ouvrages, tout enfin s'y trouvait. Une porte de ce charmant cabinet lui fit voir une superbe galerie d'où l'on découvrait le plus beau pays du monde. Dans cette galerie, on avait eu soin de placer une volière remplie d'oiseaux rares qui, tous à l'arrivée de la belle, formèrent un concert admirable. Ils vinrent aussi se placer sur ses épaules, et c'était entre ces tendres animaux à qui l'approcherait de plus près. « Aimable prisonnier, leur dit-elle, je vous trouve charmant, et je suis mortifiée que vous soyez si loin de mon appartement. J'aurai souvent le plaisir de vous entendre. » Quelle fut sa surprise quand, en disant ces mots, elle ouvrit une porte et qu'elle se trouva dans sa chambre, qu'elle croyait éloignée de cette belle galerie dans laquelle elle n'était arrivée qu'en tournant et par une enfilade d'appartements qui composait ce pavillon. Le châssis qui l'avait empêchée de s'apercevoir du voisinage des oiseaux s'ouvrait et était très commode pour en empêcher le bruit, quand on n'avait pas envie de les entendre. La belle, continuant sa route, aperçut une autre troupe emplumée. C'étaient des perroquets de toutes les espèces et de toutes les couleurs. Tous en sa présence se mirent à caqueter. L'un lui disait « bonjour », l'autre lui demandait à déjeuner, un troisième plus galant la priait de le baiser. Plusieurs chantaient des airs d'opéra, d'autres déclamaient des vers composés par les meilleurs auteurs, et tous s'offraient à l'amuser. Ils étaient aussi doux, aussi caressants que les habitants de la volière. Leur présence lui fit un vrai plaisir. Elle fut fort aise de trouver à qui parler, car le silence pour elle n'était pas un bonheur. elle en interrogea plusieurs, qui lui répondirent en bête fort spirituelle. Elle en choisit un qui lui plut davantage. Les autres, jaloux de cette préférence, se plaignirent douloureusement. Elle les apaisa par quelques caresses et par la permission qu'elle leur donna de venir la voir quand ils voudraient. Peu loin de cet endroit, elle vit une nombreuse troupe de singes de toutes les tailles, des gros, des petits, des sapajous, des singes à face humaine, d'autres à barbe bleue, verte, noire ou aurore. Ils vinrent au-devant elle à l'entrée de leur appartement où le hasard l'avait conduite. Ils lui firent des révérences accompagnées de cabrioles sans nombre et lui témoignèrent par leurs gestes combien ils étaient sensibles à l'honneur qu'elle leur faisait. Pour en célébrer la fête, ils dansèrent sur la corde. Ils voltigèrent avec une adresse et une légèreté sans exemple. La belle était fort satisfaite des singes, mais elle n'était pas contente de ne rien trouver qui lui donnât des nouvelles du bel inconnu. Perdant l'espoir d'en avoir, regardant son rêve comme une chimère, elle faisait ce qu'elle pouvait pour l'oublier, et ses efforts étaient vains. Elle flatta les singes et dit en les caressant qu'elle souhaiterait en avoir quelques-uns qu'il a voulu suivre pour lui tenir compagnie. À l'instant, deux grandes guenons vêtues en habits de cour, qui semblaient n'attendre que ses ordres, se vinrent gravement placer à ses côtés. Deux petits singes éveillés prirent sa robe et lui servirent de page. Un magot plaisant, mis en « Señor Escudero », lui présenta sa patte proprement gantée. Accompagnée de ce singulier cortège, la belle alla prendre son repas. Tant qu'il dura, les oiseaux sifflèrent comme des instruments et accompagnèrent avec justesse la voix des perroquets qui chantèrent les airs les plus beaux et les plus à la mode. Pendant ce concert, les singes qui s'étaient donné le droit de servir la belle, ayant dans un instant réglé leurs rangs et leurs charges, en commencèrent les fonctions et la servirent en cérémonie avec l'adresse et le respect dont les reines sont servies par leurs officiers. Au sortir de table, une autre troupe voulut la régaler d'un spectacle nouveau. C'étaient des espèces de comédiens qui jouèrent une tragédie de la façon la plus rare. Ces seigneurs singes et seigneurs à guenons, en habits de théâtre couverts de broderies, de perles et de diamants, faisaient des gestes convenables aux paroles de leur rôle, que les perroquets prononçaient fort distinctement et fort à propos, en sorte qu'il fallait être sûr que ces oiseaux fussent cachés sous la perruque des uns et sous la mante des autres, pour s'apercevoir que ces comédiens de nouvelle fabrique ne parlaient pas de leur cru. La pièce semblait être faite exprès pour les acteurs, et la belle en fut enchantée. À la fin de cette tragédie, un d'entre eux vint faire à la belle un très beau compliment, et la remercia de l'indulgence avec laquelle elle les avait entendus. Il ne resta de singes que ceux de sa maison, et destinés à l'amuser. Fin de la quatrième partie, lue par Ezoie, en Belgique, en janvier 2010.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.